Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h48. Bonjour Thomas Guédisseux.
Bonjour à toutes et tous.
On décortique ce matin les coulisses de la visite de Joe Biden en Europe avec un spécialiste des États-Unis, le professeur Benoît Friedman.
Symboliquement, le président américain a choisi l'Europe pour son premier grand voyage officiel à l'étranger, une opération de séduction auprès des alliés historiques, mais délaissés, notamment durant les années Trump. Dans la foulée de la réunion du G7 dans les Cornouailles, le voici donc à Bruxelles. Mais que vient-il chercher réellement? Comment compte-t-il s'y prendre pour retrouver la confiance des Européens? On va décortiquer les coulisses avec le professeur au Centre Perelman de philosophie du droit à l'ULB.
The United States is back and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future.
Bonjour Benoît Friedman.
Bonjour François Lheureux.
Le président américain Joe Biden qui veut, dit-il, mobiliser les démocraties du monde entier. Quel soutien Joe Biden vient-il chercher ici à Bruxelles et en Europe?
Il vient chercher le soutien de ses alliés européens. En fait, il vient restaurer l'alliance très abîmée par Trump. C'est ça qu'il lui importe de reconstituer par rapport aux épreuves qui s'annoncent dans le monde qui vient.
En quoi il est question dans le chef de Biden de la survie de nos démocraties?
Bien, on pourrait dire que c'est un slogan pour refaire l'alliance traditionnelle du bloc occidental. Mais il y a, je pense, une réalité, c'est-à-dire que les Européens et les Américains ont maintenant pris pleinement conscience que leur régime sont mortels, voire menacés de manière imminente. Et il ne faut pas oublier qu'on a eu une sorte de coup d'État mou de Trump à la fin de son mandat et qui continue d'ailleurs, qui consiste à contester le résultat des élections. Et en France, il est possible que Marine Le Pen soit la prochaine présidente de la République. De plus, la démocratie dans le monde global d'aujourd'hui est attaquée comme modèle. La Chine, d'autres pays, la Russie, disent qu'au fond, c'est un modèle qui est dépassé, qui n'est pas performant, etc., notamment pour lutter contre les pandémies et autres.
En quoi on peut parler d'un retour d'une nouvelle forme de guerre froide?
Oui, alors, une nouvelle forme de guerre froide, en tout cas, il y a la menace à l'Est de Poutine qui nous amène une sorte de drôle de guerre en Ukraine et qui sans arrêt essaye d'agacer en quelque sorte les forces de l'OTAN. Et puis surtout, il y a la nouvelle compétition avec la Chine qui est une compétition qui n'est pas qui prend prétexte en quelque sorte en tous les cas qui est partiellement politique, mais qui est évidemment aussi et surtout peut-être économique et commercial.
Et c'est pour ça que Joe Biden vient chercher le soutien des Européens cette semaine, Benoît Friedman. Hier, les démocrates de Belgique sont venus accueillir le président américain. Est-ce que cette visite est le début d'une Biden-mania européenne, tous mis en tout cas sur le changement de ton diplomatique? Écoutez.
C'est quelqu'un qui peut créer des liens, retisser ces liens qui sont très importants pour nos deux continents.
C'est vraiment une bonne nouvelle de le voir venir ici et surtout que ce soit un de ses premiers pays dans son premier voyage à l'étranger depuis qu'il a été élu. Ça montre vraiment l'importance que la nouvelle administration donne à l'OTAN.
On sent l'optimisme, mais Benoît Friedman, est-ce que la confiance des Européens est réellement restaurée après les années Trump?
Non, je pense qu'on est très soulagés. Que Biden ait été élu d'un cheveu et surtout du discours qu'il tient et des propositions qu'il fait. Mais les Européens ne sont pas rassurés parce qu'ils ont vu avec Trump comment l'alliance peut s'effondrer d'un coup et surtout, ils savent que Biden n'est pas éternel et que le Trumpisme peut revenir assez rapidement au pouvoir aux États-Unis et donc ils ne veulent plus confier leur sort à un pays dont la situation intérieure est fragile.
Et donc, autant on a senti le président français, Emmanuel Macron, très enjoué par rapport à l'arrivée de Biden, autant il y a une réticence clairement des Européens de s'aligner derrière un seul homme, comme ça a été le cas par le passé.
C'est sûr. Sur le fond, Macron et Biden, on voit bien qu'ils partagent les mêmes valeurs. Par contre, sur la stratégie politique, on voit que les Européens, la France, l'Allemagne, pense que l'Europe doit ne plus s'aligner comme lors de la guerre froide sur Washington, mais doit devenir le troisième acteur de l'Europe. Et on voit d'ailleurs que dans des dossiers clés, l'Europe refuse de faire ce que lui demandent les États-Unis.
Justement parce que différents dossiers économiques sont au menu des différentes rencontres, hein, entre le président européen, le président américain et les partenaires européens. Notamment, on va parler d'abord de celui de la fiscalité des multinationales. Biden a surpris, hein, créé en tout cas la sensation, en imposant cet impôt minimum mondial. Il a aussi un peu bousculé les Européens. En quoi on peut parler d'une révolution politique, ce coup-là, cette annonce ?
Alors, là, sur le coup, ce serait plutôt un point d'accord entre les Européens et les Américains, et qui fait partie, au fond, de la même idée d'assurer la survie des régimes. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'assurer la survie de la démocratie, il faut aussi avoir de l'argent pour mener les programmes sociaux sans lesquels ces régimes n'ont pas de sens. Et donc, l'idée d'un impôt minimum sur les sociétés, ce sont des revendications qui sont à la fois, qui étaient plutôt européennes. C'est une idée intéressante, c'est une déclaration de principe qui n'aura pas d'effet pratique et il faut la relativiser. L'idée, c'est quoi ? Un taux d'impôt minimum sur les sociétés de 15%. Alors, j'ai vérifié avant de venir vous voir. Il y a 30 ans, le taux d'impôt moyen, il était de 40%.
Aux États-Unis ?
Non, mondial. La moyenne mondiale. Et la moyenne dans l'OCDE. Et la moyenne dans l'Union européenne, ça tournait autour de 38%. Aujourd'hui, la moyenne, elle est un peu plus de 20%, 23%. Et on propose, pour enrayer la chute, un taux minimum à 15%. Alors, évidemment, c'est un peu bas. Les Américains et les Français s'étaient mis d'accord, semble-t-il, au départ, pour 20%, et puis les Américains ont changé d'avis. 15%, c'est bas. Et alors, il y a évidemment la supertaxe GAFA. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, puisque c'est la possibilité pour les États, chacun d'eux, la France l'a déjà fait, d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA. Et ça, je crois que c'est l'avenir de la fiscalité mondiale, c'est-à-dire un retour en arrière. Au lieu de taxer les bénéfices, on va taxer les chiffres d'affaires, parce que ça, c'est pas délocalisable comme les sièges et sociétés.
Donc si on comprend bien, la logique de Biden, c'est du pragmatisme pur, c'est contrer l'évasion fiscale, on n'est pas dans de l'idéologie, c'est parfois le prisme européen qu'on veut y voir aussi.
Il y a vraiment une idée qui est que tout le monde, il y a une idée qui est que les entreprises ne peuvent pas échapper à l'impôt parce que ce que les entreprises ne payent pas, c'est les individus et les travailleurs qui le payent. Donc il y a une vraie idée politique qui est liée à la social-démocratie. Et puis derrière, comme toujours en manière de fiscalité, c'est pas tout de décréter un principe, c'est de effectivement voir entrer l'argent. Or, au-delà même du taux d'imposition, ce qui compte, c'est de contrer l'ingénierie fiscale qui fait que les grands GAFAM, comme vous le savez, ne payent en réalité ni 40, ni 20, ni 15, mais 0% d'impôt.
Benoît Friedman, autre dossier sur la table aussi, c'est, on l'a parlé, la rivalité avec la Chine, la Russie, notamment sur l'aspect commercial. Et là, les Européens jouent clairement cavalier seul. C'est fini la stratégie où on s'alliait forcément sur la politique commerciale des États-Unis. L'Allemagne, la France comptent bien prendre leur destin commercial en main.
Oui, et pour moi, il y a deux dossiers. Hein, donc, il y a les Allemands qui font le gazoduc, c'est-à-dire avec les Russes, Nord Stream 2, c'est-à-dire qui achètent leur gaz aux Russes malgré l'opposition très ferme de Washington. Et il y a, toujours sous présidence allemande, le fait que l'Union européenne a conclu, presque en catimini, en décembre dernier, un accord d'investissement avec la Chine. Et donc, moi, je vois le rôle de l'Allemagne, qui est la femme forte de l'Europe, et qui, effectivement, derrière les discours et derrière les valeurs, veut sauvegarder sa situation économique en jouant, pour l'Union européenne, une carte propre par rapport à Washington.
Et là-dessus, quelle est la marge de Biden alors ? Que va-t-il venir chercher demain quand il va aller devant le Parlement européen et devant les 27 ?
Le pouvoir de pression des États-Unis est énorme. Nous l'avons vu par exemple, Trump a décrété l'embargo sur les opérations en Iran en se retirant du traité de non-prolifération nucléaire. Eh bien, les Européens n'étaient pas d'accord, et les entreprises européennes, par peur, ont tout de suite arrêté toutes les opérations économiques avec l'Iran. Donc il faut, le pouvoir de pression des États-Unis dans une économie qui tourne en dollars est énorme. Ceci étant, je pense que par rapport à l'Allemagne, qui me semble être le personnage clé, Merkel s'en va et que peut-être, mais je ne connais pas les clés de la démocratie américaine, peut-être que sur un plan plus personnel, on va attendre l'arrivée d'un nouveau chef d'État sans expérience pour lui mettre une pression maximale.
Autant on parle de rupture entre Trump et Biden sur différents aspects, autant en politique commerciale, Biden fait du Trump, notamment vis-à-vis de la Chine. Il est clairement dans la continuité et il demande aux Européens de s'engager dans cette continuité-là.
Alors, je ne dirais pas moi que Biden fait du Trump. Je pense que ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est la Chine devient l'adversaire numéro un qui risque de dépasser les États-Unis et qui a elle-même changé de politique pour avoir une politique très dure sur un plan politique et économique avec les États-Unis, et que donc les États-Unis, de manière très pragmatique, en ont pris acte et essayent d'entraver le développement de la Chine au niveau mondial, tant sur le plan politique et culturel, donc la bataille pour la démocratie, c'est ça, que sur le plan économique et commercial.
En 30 secondes, Benoît Friedman, on parle beaucoup, c'est de la rencontre Biden-Poutine de mercredi. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Une photo, rien de plus, ou bien une vraie discussion musclée?
Je pense que... Enfin, j'ai bien aimé la déclaration de Biden à ce sujet. Il a dit « Je vais lui dire ce que je veux qu'il sache ». Et donc, on n'est pas du tout dans de la diplomatie. L'idée, c'est qu'il arrête d'être un pôle d'instabilité en Europe et aux États-Unis, à la fois sur le plan militaire, mais surtout en déstabilisant les démocraties. Je vous rappelle que la Russie interfère dans toutes les élections et parfois avec des résultats malheureusement catastrophiques pour nos démocraties.
Et on en revient sur ce terme de survie de nos démocraties avec lequel on a commencé l'interview.
Merci à vous, Benoît Friedman. Merci à vous, Thomas Gallis.